Vous écoutez On lit pour vous.
Un forum sur le leadership féminin en Colombie-Britannique, un texte de Chaimée Chouyek, paru le 19 mars 2024 dans le journal La Source en Colombie-Britannique. La Journée internationale de la femme, célébrée chaque année le 8 mars, est une occasion mondiale de reconnaître et de mettre en valeur les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes. Cette date symbolique vise à sensibiliser le public aux progrès réalisés en matière d'égalité des sexes et aux défis persistants. En Colombie-Britannique, le développement du leadership des femmes au travail et dans la société est l'un des enjeux les plus en demande. Le Forum sur le leadership féminin, organisé par deux organismes multiculturels de Vancouver, en fait foi. Quelle est la signification du leadership féminin aujourd'hui? Quels sont les défis et les chances qui existent pour les femmes ayant une identité ethno-culturelle différente et comment encourager le développement professionnel et personnel des femmes nouvellement arrivées au Canada? Ce genre de thématique, y compris les questions qu'elle soulève, a réuni plus de 300 personnes lors de la deuxième édition du Forum sur le leadership féminin, organisé conjointement par deux organismes multiculturels de Vancouver. Il s'agit de Diverse City Community Resources, ayant son siège social à Surrey et offrant depuis 45 ans une gamme variée de services multilingues d'aide aux immigrants de la région de Vancouver. Et il y a l'organisme de bienfaisance Minerva BC, créé il y a 5 ans, qui offre également des programmes de formation et de développement de leadership pour les femmes. Aujourd'hui, plusieurs organismes féminins en Colombie-Britannique et de nombreuses entreprises désirent faire valoir pleinement la diversité, l'équité, l'inclusion et la réconciliation au sein de leur organisation. C'est le cas pour les deux organismes qui ont organisé ce forum sur le leadership des femmes. Ce forum a réuni au cours d'un atelier des participantes de haut calibre, parmi lesquelles Rhonda Larabi, chef de la Première Nation Kwaikwait, Sophie Lui de Global BC et Nikki Sharma, procureur général de la Colombie-Britannique. Pour Margaret Jetelina, directrice du marketing de Diverse City, ce forum permet de créer un lieu de rencontre où les femmes de tous les horizons, nouvellement arrivées au Canada ou nées au Canada, peuvent se rencontrer, échanger entre elles et partager leurs expériences. Au cœur du forum, on retrouve une variété de participantes ayant des métiers et des fonctions différentes, que ce soit des femmes en politique au niveau provincial et municipal, des femmes d'affaires entrepreneurs et d'autres œuvrant dans des groupes d'entraide à but non lucratif. Les intervenantes ont abordé divers sujets allant du racisme au syndrome de l'imposteur en passant par leurs expériences personnelles. Ces discussions ont offert plusieurs perspectives sur le processus décisionnel de certaines d'entre elles et leur parcours individuel pour obtenir un poste de direction. Pour la fondatrice de Synergy Executive, Trish Mandewo, le leadership ne consiste pas à atteindre le sommet et à accepter le pouvoir. Il s'agit plutôt de ce que vous faites avec ce pouvoir une fois que vous y êtes parvenu. Qui ai-je aidé ces derniers temps? Qu'ai-je fait pour améliorer la situation de quelqu'un d'autre? À qui d'autre puis-je m'adresser pour qu'ils puissent atteindre leurs propres objectifs? D'autres participantes ont mentionné l'importance du soutien communautaire qu'il est possible d'obtenir, suggérant même que chacun devrait avoir un mentor et un champion pour relever avec succès les défis professionnels et personnels. Le forum a été conçu pour repenser le leadership comme un état d'esprit, encourageant les femmes à prendre en charge leur destin professionnellement, dans leur communauté ou au sein de leur foyer. L'objectif des organisateurs de l'événement était d'explorer comment les femmes peuvent définir et atteindre leurs objectifs grâce à un plan ou une stratégie claire. Stratégiquement, de souligner Margaret Jetelina, il s'agit de savoir comment les femmes peuvent prendre le leadership, contrôler ce qu'elles veulent réaliser et les aider à établir une stratégie ou un plan d'action pour y parvenir. Outre les ateliers de discussion, le forum a proposé d'autres activités plus créatives pour intéresser les participantes, notamment l'atelier Writing in Flow, animé par Daniela Cohen, journaliste et écrivaine sud-africaine. Il y a eu également des séances de yoga, de réseautage en petits groupes, ainsi qu'une session de danse Body Fusion, une activité permettant aux participantes de se rapprocher par le mouvement et l'expression corporelle. Ce forum illustre bien que la parole ne soit pas toujours suffisante et qu'il faille également passer aux gestes. C'était un forum sur le leadership féminin en Colombie-Britannique, un texte de Jaime Chouyek, paru le 19 mars 2024 dans le journal La Source en Colombie-Britannique.
Viviane, notre père est gay. Un texte de Viviane Odette, paru le 14 juin 2024 dans Urbania. Faire son coming out après 40 ans de mariage. On est le 13 juin 2021. Les enfants attendent avec impatience la visite de leurs grands-parents en retard de 3 heures. On avait dit fin d'avant-midi, pas leur genre. J'appelle, je texte, pas de réponse. Il est 14 heures. C'est une journée du mois de juin où ça prend au minimum une petite piscine en forme de melon d'eau pour survivre. Le genre de dimanche où je manque d'inspiration dans toutes les sphères de ma parentalité, alors je donne du melon d'eau aux enfants dans leur piscine en forme de melon d'eau. Le plus jeune a même un costume de bain avec des melons dessus. Rendu là, on peut commencer à parler de concepts. Ça fait de belles photos ensoleillées, alors j'envoie ça par texto aux retardataires. Pas de réponse. Ils sont partis de la Gaspésie en motorisé hier matin. En chemin, ils se sont arrêtés à Québec, chez mon frère, pour voir les petites et ensuite, le plan, c'est qu'ils viennent m'aider avec les enfants pour la semaine à venir. Mon chum est en tournage dans le Témiscouata et je suis en studio toute la semaine. Help! Il est 15 heures quand mon frère m'écrit en panique sur Messenger. Viviane, appelle-moi, urgent. Personne de malade, personne de mort. Mon frère n'est pas fort sur les points d'exclamation. C'est un gars posé, réfléchi, et je l'aime pour ça. Je rentre les petits en dedans. Faut dire qu'ils ont fait le tour des melons d'eau. Je mets la saison 6 de Pat Patrouille. L'épisode avec Stella et les 3 pingouins perdus. Ils devraient être au summum de leur autonomie pour au moins 7 minutes. Pat Patrouille à la rescousse. J'appelle mon frère. Allô, Nico? Es-tu bien assise? Quelle étrangeté, cette idée de s'asseoir pour encaisser les nouvelles. Peut-on être debout et recevoir un coup de masse dans le front? Le débat est ouvert. À la limite, on est plus d'attaque pour réagir, non? Je m'assois quand même. J'ai bien fait. Viviane, notre père est gay. Il vient de nous annoncer ça à ma pis moi. Un feeling d'aspiration. Flotter dans un grand vortex de chaleur. Il fait chaud, c'est pas des blagues. Mais rien de tout ça n'est une blague. Le temps passe, l'équivalent de 1000 ans ou une nanoseconde quelque part entre les deux. Nico, sais-tu quoi? Je pense que je suis soulagé. Je viens de dire ça, je pense que je suis soulagé. C'est chose que l'on sent. Nico. Mais maman. Comme un gros accident de char. Ma mère, je ne suis plus soulagée du tout. Ma mère, 40 ans de mariage, ma mère, cette femme merveilleuse, ma mère, sont où, là? Ils s'en viennent chez vous. Ils sont sûrement rendus à Drummondville et vont être chez vous dans une heure, j'imagine. Je raccroche, je regarde dans le salon. Stella attrape les trois pingouins perdus sur leur banquise à la dérive avec son hélicoptère et les ramène sur la terre ferme. Ryder est heureux. Marcus s'enfarge dans son tuyau de pompier. Tout le monde rit. Il est drôle, Marcus. Personne n'a prévu venir me secourir. Moi, faudra vivre ça. Dans une heure environ, s'il n'y a pas trop de trafic sur le chemin des Patriotes. Faudra vivre tout ça. Help! Appelez mon chum. Peux-tu me parler? Je peux pas tout de suite. Je suis sur un bateau avec les comédiens. On se fait un petit barbecue. Il fait beau. Je peux-tu te rappeler? Mon père vient de faire son coming out à mon frère puis ma mère. Il arrive. Je sais pas quoi faire. Oh! Le chum se pogne un petit coin en arrière du bateau, baisse le ton, me dit que ça va être correct, que je vais être bonne. Pendant cette heure d'attente, je scanne mon enfance, mes souvenirs. J'ajoute cette nouvelle donnée comme on ajuste la lentille devant une image floue. Focus. Il est 17h tapant quand le gros motorisé de mes parents s'aventure au ralenti dans l'entrée étroite de ma cour. Il est 17h01 quand mon père, nouvellement officiellement gay, sort du motorisé. Il est 17h02 quand je le serre dans mes bras parce qu'il sait que je sais. Nous savons tous maintenant. Il est 17h03 quand ma mère sort du côté passager, contourne le devant du gros véhicule de plaisance à des années-lumière du moment présent. Nos yeux se croisent. Un accident de char. Il est 17h04 quand je la serre très fort, longtemps. Il est 17h07 quand les enfants réalisent que leurs grands-parents sont enfin arrivés et qu'ils courent partout au bout de leur joie. Il est 17h09 quand je leur donne la permission exceptionnelle, pas si exceptionnelle, de regarder les deux petits jumeaux riches sur YouTube qui font du mini-jeep dans leur cour de Beverly Hills sous le regard de leur mère trop expressive. Il est 17h10 quand je verse un verre de gin à mon père, à ma mère et à moi. Il est 17h11 quand le silence. La question qui me passe par la tête à ce moment-là dans cette grande apnée vertigineuse aux effluves d'Hendrix, on se retrouve où dans ce début et dans cette fin? Comment cette délivrance pourra à la fois nous déconstruire et nous construire? Les questions ont été posées, les coches ont été pétées. Parce que oui, des coches ont été pétées. Parce que non, rien de tout ça n'est parfait. Parce qu'avec la compréhension, la bienveillance et tout l'amour possible peuvent cohabiter la confusion, le déchirement et la peine. Un pas pire beau cocktail. Et pour adoucir tout ça, à part le gin, le temps. Le temps qui passe, rien de plus banal. Le temps qui avance, quelle platitude sans nom. Et en plus, ça se fait tout seul, sans effort, aucun mérite. Donc, pour donner un edge et un peu de poésie au processus d'apprivoisement, j'irai simplement d'une analogie gaspésienne parce que mes origines me confèrent un droit acquis sur ce genre de comparaison maritime un peu louche. La vie s'est moulée tout doucement à ce nouveau « nous », comme le sel de la mer polie les roches coupantes. La vérité, cette denrée à la fois précieuse et terrifiante. Mon père a fait ce qu'il devait faire. Avec tout l'amour du monde, malgré le déchirement, il l'a fait tard dans sa vie, oui, mais il l'a fait pareil. Je suis fier de lui. Ma mère s'est rapprochée de nous. Je l'ai vue se reconstruire. J'ai découvert une femme résiliente et courageuse. Fier d'elle aussi. Et moi? Pas clair, encore. Comment tout ça se dessine dans ma tête? Pas clairs encore les sentiments qui m'habitent dans mon cœur de petite fille. Pas clairs encore comment j'attache tout ça ensemble. Je me laisse le droit de pas toujours savoir, et c'est correct. 3 ans plus tard, les fils se sont recousus, les cicatrices sont moins visibles et notre famille existe dans cette nouvelle formule. Je suis fier de faire partie de ce clan qu'on aime qualifier entre nous de « moderne », même s'il n'y a rien de moins « moderne » que de se dire « moderne ». Arc! On n'a qu'à penser au salon de coiffure avec 2000 dans leur nom. La modernité, c'est juste d'apprivoiser la nouveauté. Et c'est en plein ça qu'on a fait. On est moderne. Quand on était petit, en voulant brûler des feuilles mortes, mon père a, sans le vouloir, mis le feu à notre grand terrain sur la rue Drouken à Maria. Les pompiers avaient combattu le feu, mais une partie de la forêt derrière la maison avait brûlé. J'avais été marqué par la vitesse à laquelle la nature s'était reprise après. Plus belle, plus dense, plus riche, plus fleurie. C'était « Viviane, notre père est gay », un texte de Viviane Odette, paru le 14 juin 2024 dans Urbania.
Tout est possible. Un texte de Marine Dumaine, paru le 13 juin 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon. Le mois de juin est enfin là, avec son abondance de lumière et d'énergie. Avec son solstice, ses journées presque sans fin, les projets qui s'achèvent avant les congés d'été, les diplômes de fin d'études, les fêtes et festivals et les nouvelles aventures qui commencent. Ce mois-ci, semble-t-il, est une période où tout est possible. Au Yukon, nous avons la chance de vivre où les saisons s'alternent avec majesté et grandeur. La lumière, ici, est une force que nous emmagasinons pour la conserver précieusement au fond de notre cœur tout au long de l'année. Son énergie nous rappelle que tout est réalisable. Changer, se développer, s'embarquer dans des aventures, apprendre, évoluer, tout devient possible. Juin est aussi le mois de la fierté, célébration emblématique des évolutions que nos sociétés vivent. Si beaucoup de chemin reste à parcourir, les changements positifs sont nombreux et significatifs, et pas seulement face aux enjeux LGBTQ2SI+. Nous vivons aujourd'hui les possibles d'hier. De nos jours, les petites blagues sur le genre, la couleur de peau ou les nationalités ne passent plus inaperçues ni comme inoffensives. Et ce, qu'elles viennent de n'importe qui, même d'une personne éminente. Cela témoigne d'une évolution des mentalités. Et c'est quand ces choses ressortent qu'on se rend compte qu'on partait de loin. Quelle satisfaction de voir que le changement se fait, que finalement c'était possible d'évoluer. Et les drapeaux de la fierté qui ornent les écoles, les hôpitaux et les mairies sont à mes yeux des symboles de cette évolution. Juin marque également le mois de l'histoire des peuples autochtones, ainsi que la Journée nationale des peuples autochtones, célébrée au moment du solstice. Que de changements ont eu lieu ces dernières années pour les premiers peuples du Canada. Tant d'accomplissements ont vu le jour, souvent issus de mouvements de lobbying venus des peuples du Yukon. « Tout est possible » pourrait être, selon moi, un slogan pour les peuples autochtones du Yukon. Il y a 10 ans, imaginer que le système scolaire colonial s'adapterait aux enjeux autochtones semblait utopique. Aujourd'hui, les élèves qui s'absentent des salles de classe pour aller chasser, par exemple, ne voient plus d'absence notée sur leur bulletin scolaire. L'enseignement de la culture, de la terre et des traditions familiales est désormais reconnu comme partie intégrante de l'éducation au Yukon. Cela fait partie des grandes réussites de l'intégration de la culture autochtone dans l'éducation. Cette résilience, mêlée à une détermination et à un espoir sans faille, ont porté des fruits et sont devenus désormais une source d'inspiration. Espérons que cela apporte courage et espoir aux peuples autochtones ailleurs sur la planète, car beaucoup présentement luttent encore pour leurs droits et la reconnaissance de leur culture. Citation. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Fin de citation, affirmait Mark Twain, écrivain américain. C'est ainsi que naissent les nouveaux projets et que l'on se lance dans de nouvelles aventures. Elles semblent parfois farfelues, insensées, longues ou même irréalistes. Pourtant, grâce à ces intimes convictions, les barrières peuvent s'estomper. C'est d'ailleurs ainsi que les personnes résidentes de Valley View ont réussi à garder leur zone verte dans leur quartier. En parlant de barrières qui se sont estompées, j'en profite pour vous mettre l'eau à la bouche. Notre magazine estival arrivera très bientôt, soit le 4 juillet. Là aussi, nous avons éclaté quelques barrières, au niveau de sa production surtout, grâce à une équipe qui a travaillé des quatre coins du Canada et même des quatre coins du monde. Je n'en dis pas plus, mais nous vous promettons une nouvelle édition remplie de positivisme et pleine de connexions. En ce mois de juin, célébrons la lumière et la diversité. Que ce mois soit un appel à l'action et à l'ouverture d'esprit. Embrassons les nouveautés avec courage, optimisme et conviction. Plus que jamais cet été, soyons ouvertes, ouverts au merveilleux monde des possibles. C'était « Tout est possible », un texte de Marine Dumaine, paru le 13 juin 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon.
Qui sont les vrais vampires? Un texte de Boucard Diouf, paru le 28 octobre 2023 dans la presse. Avec près de 400 000 homicides par année, selon des données publiées par la BBC en 2023, l'humanité incarne, à mon avis, le deuxième vampire parmi les plus sanguinaires de la planète. Évidemment, pour un portrait plus complet du côté meurtrier de notre espèce, il faut ajouter à cette statistique les milliers de victimes qui crèvent dans les conflits autour du monde. En attendant le dévoilement du premier rang, je vous propose d'ouvrir vos cœurs aux chauves-souris, injustement victimes d'une indécrottable aura vampirique à cause de leur apparence. Une légende raconte qu'autrefois, la chauve-souris vivait au milieu des autres animaux et dormait dans une position normale. Un jour, elle tomba malade pendant sa grossesse, mais personne ne voulait venir à son secours. Elle accoucha quand même d'un mignon bébé avant de rendre l'âme, vaincue par la maladie et l'allaitement. Le chef du village des animaux demanda aux oiseaux de l'inhumer, mais ils refusèrent en expliquant qu'avec ses dents et l'absence de plumes sur ses ailes, la chauve-souris ne faisait pas partie du peuple à plumes. Le chef se tourna ensuite vers les mammifères, mais ils refusèrent aussi de l'enterrer en expliquant qu'il ne se reconnaissait pas dans cet animal dont le physique semblait chimérique. C'est ainsi que, triste et abandonné à son sort, le petit chiroptère enterra sa maman en solitaire. Cette légende rapporte qu'à partir de cette sombre journée, la descendance de la chauve-souris décida de dormir à l'envers. Une façon de pointer son derrière à ce créateur qu'elle tenait responsable d'une injustice originelle à son égard. Encore aujourd'hui, la chauve-souris attire rarement l'empathie et la bienveillance de l'humanité. Au contraire, sa simple proximité provoque une peur déraisonnable chez beaucoup de personnes. Je vous raconte une petite anecdote sur le sujet. Un jour, une petite chauve-souris est entrée dans mon bungalow. Pour un biologiste comme moi, qui ai toujours adoré les stridents cris nocturnes des grosses chauves-souris frugivores dans les manguiers, cette visite était anecdotique. Mais les hurlements de ma conjointe m'ont rappelé l'urgence de sortir le monstre qui s'était réfugié dans la chambre où dormait notre garçon. Aidé par mon instinct de chasseur de savane, j'ai rapidement repéré, attrapé et sorti le vagabond devant les yeux admiratifs de ma femme. Je ne pensais jamais qu'une si petite bestiole pouvait me faire sentir aussi big que Batman. Ma balloune de super-héros a quand même vite dégonflé quand ma jolie femme chat a sorti ses griffes et m'a fait comprendre qu'à la moindre autre intrusion du genre dans le bungalow, Batman, qui oublie souvent de fermer la porte de la maison, allait passer au bat. Cette frousse historique, qui amène encore à mettre ses paisibles mammifères dans les décors de peur de la fête de l'Halloween, est une construction difficile à ébranler. Le biologiste et passionné des chauves-souris Richard Brunet m'avait raconté une histoire sur l'origine de cette légende urbaine qui veut que les chauves-souris s'agrippent aux tignasses des humains. Si on recule dans les années 1960, m'avait-il dit, les femmes avaient les coiffures hautes avec plein de spray net dans les cheveux. Or, les odeurs de ces produits chimiques attirent certains insectes qui sont des proies de prédilection des petites chauves-souris. En rasant de trop proche ces touffus appâts à insectes, les griffes des chauves-souris pouvaient accrocher malencontreusement les cheveux. Voilà donc comment serait née cette croyance qui allait s'ajouter aux fausses et délétères représentations déjà largement véhiculées par les légendes et le cinéma sur ces mammifères volants. Je parle ici de ces croyances qui ont fait d'eux les compagnons des vampires, fantômes, zombies et loups-garous dans cette fête d'Halloween. Oui, il est vrai que certaines chauves-souris peuvent nous refiler des maladies si on se mêle trop de leur vie. Raison pour laquelle on gagne à préserver leur habitat et éviter la promiscuité avec l'humanité. Les chauves-souris vampires existent aussi. Si vous dormez à la belle étoile dans certaines régions de l'Amérique centrale et du Sud, des chauves-souris de la famille des Desmodontinae peuvent vous voler un peu de sang. Pendant que vous roupillez, cette petite bête vous anesthésie localement, fait une petite incision entre vos orteils et vous siphonne quelques millilitres du précieux et nutritif liquide. Sa salive contient aussi de la draculine, un anticoagulant qui l'aide à garder le flot de sang continu pendant son repas. Mais rassurez-vous, leurs attaques sur des humains sont extrêmement rares. Ces vampires préfèrent le sang des animaux, surtout les mammifères d'élevage. Comme la recherche nocturne de sang n'est pas toujours évidente dans les grottes qu'ils habitent, ces vampires sont plutôt des généreux qui partagent et s'entraident. En vertu de cet altruisme qui semble avoir inspiré Emma Québec, ceux qui ont ramené du sang régurgitent une partie de leur pitance à ceux qui n'ont pas trouvé de proie à ponctionner. Donner à un voisin pour lui sauver la vie, c'est aussi investir dans un geste solidaire qui pourrait sauver la nôtre en cas de besoin. En cause, notre bénéficiaire d'aujourd'hui sera peut-être notre donneur de demain. Bref, de ce côté-là, les chauves-souris sont peut-être même un modèle à copier pour le deuxième vampire parmi les plus sanguinaires de la création. Juste devant l'humain, le moustique est le vampire originel le plus redoutable. L'activité hématophage des moustiques tuerait indirectement près de 700 000 personnes sur la planète. Le moustique est impliqué dans la transmission de maladies comme le chikungunya, la dengue, le zika, la fièvre jaune, la fièvre du Nil occidental, le paludisme, etc. À votre prochaine Halloween, remplacez les traditionnelles chauves-souris de votre décor par des moustiques et vous serez bien plus près de la réalité. C'était « Qui sont les vrais vampires? » Un texte de Boucard Diouf paru le 28 octobre 2023 dans la presse.